Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, épisode un petit peu spécial aujourd'hui dans lequel nous allons traiter d'un sujet qui nous touche malheureusement tous, le deuil. Pas nécessairement le deuil lié à la mort d'un proche, mais le deuil dans son ensemble. À tous ceux qui ont déjà vécu un décès dans votre entourage, un abandon, une rupture ou bien une dispute, vous avez dû faire ce qu'on appelle un deuil. Ou peut-être que quelqu'un a déjà fréquenté un malade, c'est ce qu'on appelle un deuil blanc. Si par exemple vous êtes proche d'un malade d'Alzheimer, vous avez certainement dû faire un deuil blanc. C'est le fait de faire le deuil de quelqu'un qui n'est plus vraiment la même personne à cause de la maladie mais qui n'est pas mort pour autant. J'ai beaucoup appris à ce sujet ces derniers temps et je voulais vous faire un épisode un peu good vibes, si c'est compatible, sur la mort et comment l'aborder sereinement. Le processus de deuil est vraiment long et bien sûr qu'on n'oublie pas, on vit avec, mais il est possible de vivre entre guillemets énorme, bien avec, et je vais détailler dans cet épisode. En tout cas, je vais essayer. Si vous avez écouté mes précédents épisodes, vous savez que depuis plusieurs années, depuis 3 ans, j'accompagnais mon père vers la mort. Il est décédé il y a quelques mois d'un glioblastome, une tumeur au cerveau, et il avait demandé l'euthanasie, mais comme il faut se déplacer, il n'était plus en état d'y accéder. Donc, la vie est très longue quand on est forcé de mourir à petit feu, aussi bien pour le malade que pour l'entourage. La fin de vie, elle est extrêmement douloureuse en France et longue et lancinante, j'imagine, pour les malades, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, pour la personne concernée, mais aussi pour les aidants, mais ça se prépare aussi et ça permet de préparer le mental quelque part. Un deuil, c'est pas forcément dire au revoir à quelqu'un parce qu'il est décédé. Les chamans, par exemple, ont tendance à dire qu'on a plusieurs morts dans la même vie, c'est-à-dire la mort du bébé pour laisser place à l'enfant, l'enfant qui meurt pour laisser place à l'ado, qui meurt pour laisser place à l'adulte, etc. Mais il n'y a pas que la mort des gens qu'il faut gérer, et certaines fois on n'approche pas les situations comme des deuils, et on reste coincé dedans 1000 ans avec une incompréhension. Moi, ça m'a beaucoup aidé cette phrase, on a plusieurs vies dans une vie, et on a aussi plusieurs morts dans une vie. On peut avoir à faire le deuil d'une amitié, d'une relation, d'un projet même parfois, ou d'une espérance. Le deuil se rattache à la mort, à la perte, et de façon plus générale au changement finalement. Donc si on prend notre chère Wikipédia, le deuil est une réaction affective à un événement majeur de la vie d'une personne, qui vit la perte d'un être cher, c'est un processus d'oubli, de retour à la normale qui s'appelle le travail de deuil. Il provoque diverses réactions physiques, psychologiques et sociales, et sa durée est variable. Alors ça, c'est sûr que sa durée est variable. Parfois, on entend, par exemple, si vous avez vécu une rupture amoureuse, « lâche l'affaire, c'est bon, passe à autre chose !» Et ça peut être extrêmement douloureux, parce qu'on se sent incompris, mais qu'on n'arrive pas à se comprendre soi-même non plus. C'est simplement parce qu'on n'a pas mis les mots sur ce qu'on traverse, le deuil. Quand on se sent brusqué par un entourage qui nous dit « allez, vas-y, c'est bon, respecte-toi, oh là là, move on, qu'est-ce que tu fais ?» C'est pas si simple. L'intérêt de mettre le mot « deuil » dessus, c'est de comprendre ces différentes étapes et accueillir et savoir où est-ce qu'on en est dans son étape de deuil. Donc, j'ai fait mes petites recherches, je vais vous donner les 5 étapes du deuil, à prendre avec parcimonie bien sûr, parce que tout le monde ne passe pas par toutes les étapes. Certains ne le font pas dans le même ordre, mais c'est pour vous donner une idée globale et rassurer ceux qui passeraient par là et peut-être mettre des mots sur quelque chose que vous ressentez mais que vous n'arrivez pas à identifier. Première phase hyper connue, le déni. On est clairement là dans un refus hyper conscient, ou parfois même inconscient, d'admettre la réalité de ce qui vient de nous être annoncé. Donc par exemple le refus de la mort de quelqu'un, si c'est un choc ou un accident, le refus de la fin d'une relation par exemple, comme mécanisme de défense. Par exemple, mon père, dans ce processus de deuil de sa vie d'avant, il a longtemps été dans le déni de son cancer. Parce que c'était simplement trop dur à accepter pour son cerveau. D'ailleurs, j'étais suivie par une psy spécialisée en oncologie pour l'accompagner au mieux, et elle m'avait conseillé, si vous traversez une phase similaire avec un proche, je vous le donne en mille, il faut laisser le patient dans le déni. Elle m'avait conseillé de ne pas le sortir du déni parce que justement, psychiquement, il n'était juste pas prêt à entendre la réalité. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que sharing is caring. Dans le cas d'un décès ou d'une rupture, on peut ressentir un profond sentiment d'injustice dans les premiers temps. Du décès ou de l'annonce, par exemple, d'une grosse maladie, etc. Ça vient avec un état de choc sur le moment de l'annonce. On a nos repères complètement bousculés. Moi, quand on m'a dit que mon père avait une tumeur incurable, bon, je me suis dit, ok, comment, quoi, je comprenais plus rien, j'étais complètement bloquée. Ça me semblait absolument incroyable. Quand on m'a annoncé, par contre, le décès de mon père, bon, j'ai certes ressenti un énorme vertige. En fait, finalement, quand on perd un parent, je pense que c'est vraiment comme si on venait perdre un pilier de ma construction de vie ou de sa construction de vie, et on est déstabilisé. On a besoin d'une minute pour retomber sur ses appuis. Et quand je dis une minute, évidemment, ça peut se transformer en année. Le déni, ça semble être une protection qui donne à la personne le temps de réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer. Peut-être que ça rend aussi la situation un peu plus tolérable, parce que pendant ce laps de temps, qui devrait rester plutôt bref, la souffrance de l'annonce est un petit peu anesthésiée. Un peu comme si on était sous un état de choc, mais non, ça va passer, ou non, il va regretter, ou non, il va revenir à lui. On est dans le non mais, ou le j'y crois pas. On a l'impression que c'est vraiment un cauchemar et qu'on va se réveiller. Et ça se passe pour n'importe quel type de deuil, hein. D'un proche, d'une annonce d'une maladie incurable, de l'annonce d'une rupture amicale ou amoureuse, d'un licenciement, ou même tout changement vraiment. Dans certains cas, on est carrément choqué, on se dit « non mais c'est pas possible », ou alors dans le cas de la médecine, « non mais les médecins sont trompés, ils ont fait une erreur, etc. » Ça peut pas nous arriver. Et ce qu'il y a de très commun, je trouve, dans le deuil, c'est que souvent on se dit « pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on a la colère. Donc d'abord le déni, ensuite la colère. Une fois que ça y est, on a compris que la réalité n'est pas contestable et que c'est comme ça que ça va se passer, là on entre dans une colère contre qui veut bien l'entendre. On peut y rester longtemps et c'est souvent qu'il y a une tristesse sous-jacente qui n'a pas été gérée. Quand on est en colère, dans un deuil, on cherche un ennemi. Parfois l'ennemi c'est la personne qui est partie, par exemple dans le cas d'un suicide. On lui en veut, on comprend pas son geste, on le trouve égoïste. Ou bien par exemple une personne qui vous a quitté. Il n'a pas placé notre relation au même niveau que ce que moi je faisais. Ou alors on s'énerve contre les médecins parce que franchement ils ont pas bien fait leur boulot. Mon père était très énervé contre le système par exemple. Il était furieux contre l'oncologue du CHU qui soit dit en passant était la chef de service. Hein. Il trouvait scandaleux qu'elle ne connaisse pas son dossier par cœur, mais elle avait certainement 300 autres patients à gérer derrière. En réalité ça cachait simplement un gros sentiment d'impuissance. Il était énervé contre lui-même de ne pas avoir de solution. Pareil, dans une rupture, on en veut à mort à celui qui nous quitte, mais en fait, on s'en veut aussi à soi-même de ne pas avoir réussi à persévérer et à préserver la relation. Ensuite, il y a une phase qui s'appelle le marchandage, mais que je connais très peu. J'ai lu ça dans un article, donc je vous en parle. Moi, je l'ai pas vraiment vécu. Pas sûre de la décrire avec précision, mais je vous donne un exemple que j'ai lu. Donc, c'est par exemple dans le cas d'une rupture amoureuse. Vous vous dites, ok, je ferai tout ce que tu voudras, ou non, mais promis, j'arrête, je vais changer, etc., etc. C'est comme une phase où on va essayer de négocier pour revenir en arrière sur l'annonce et que cette annonce ne se soit jamais passée. On est prêt à tout tenter pour sauver la relation, la personne, la situation, etc. Donc on demande peut-être un deuxième avis ou une deuxième chance dans cette phase-là. Ensuite, il y a la dépression, donc cette phase, hein, certains n'en sortent jamais malheureusement, ceux qui vivent dans le passé, et c'est entre guillemets le risque. Après un deuil, pour sortir de cette phase de dépression, je pense que se faire accompagner est une très bonne idée. La mort, parfois, porte un coup vraiment brutal, et la vie après n'a plus le même goût, mais c'est aussi possible de vivre avec. On réalise la perte, le manque, la fin d'une époque, et ça nous rend très triste parce qu'en fait notre cerveau n'aime pas le changement, donc il est nostalgique. Par exemple, on peut avoir envie d'appeler la personne au téléphone les jours après le décès ou après la rupture. Les images aussi peuvent avoir un peu choqué, parfois ça dépend, et ce choc-là vient se traduire par une espèce de dépression profonde. Puis on finit par l'acceptation. Une fois que ces étapes, les quatre étapes, sont passées, l'eau a coulé entre guillemets sous les ponts, on accepte, on vit avec. Alors, on n'oublie pas, on pleure bien sûr. Parfois, on rit et le temps fait son œuvre, on trouve toujours un nouveau rythme dans une nouvelle vie. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais dans toutes les ruptures ou les situations amicales, amoureuses, pertes de proches, etc., j'ai toujours trouvé que les 365 jours étaient les plus difficiles parce que forcément c'est les premiers Noël, les premières vacances, les premiers anniversaires sans la personne, etc. Et après, ça s'apaise. Je vais vous partager maintenant ce que mon mentor mexicain qui m'accompagne dans le processus de deuil m'enseigne sur la mort. Il m'a dit, et je vous préviens, ça fait un peu flipper, mais c'est pas grave. Une fois encore, ne prenez pas ce que je dis pour une vérité générale, mais plutôt des axes de réflexion, si vous traversez cela ou quand vous le traverserez. Première chose qu'il m'a dit, qui m'a vraiment fait froid dans le dos, il m'a dit que si le diable me laissait tranquille pour l'instant, c'est qu'il me gardait pour la fin. C'est affreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut concrètement dire que si vous n'avez pas encore vécu de trauma, de deuil, de trucs affreux, bah ça va forcément finir par vous arriver. Bon, j'avoue, cette phrase, elle fait vraiment trop trop peur, mais elle a été conçue aussi pour rassurer ceux qui traversent des tempêtes. Et ce que ça signifie, c'est que, en fait, rien n'est personnel. Tout est absolument impersonnel dans le processus de deuil, dans la mort, dans les ruptures, etc. La mort n'a rien de personnel, ça arrive à tout le monde sans exception, et c'est à peu près la seule chose dont on est sûr qui va se passer dans notre vie. Il n'y a que des futurs morts parmi les vivants, comme dirait Kerry James, et quand elle arrive à l'un de nos proches, on est toujours un peu surpris comme si elle n'arrivait qu'aux autres, mais en réalité on sait très bien que ça peut nous arriver. Je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement on est un petit peu dans un déni par rapport à la mort. La mort c'est un truc dont on est absolument certain, et dans nos cultures judéo-chrétiennes c'est tabou, le fait de parler... ça fait pleurer, ça fait peur, etc. Mais finalement, on vit grave dans l'ignorance. Comme si elle n'arriverait jamais. On vit comme si elle n'arrivait qu'aux autres. Et justement, quand on réalise qu'elle arrive à tout le monde, même à nos proches, voire à nous, même à notre cercle proche, on se dit que nos petits problèmes sont bien futiles. Donc quelque part, se dire qu'on n'a pas encore été touché peut nous permettre de vivre la vie du bon côté. Quelle chance d'avoir été épargné jusque-là. Profitons de la vie parce que la roue tourne. Et si vous avez été touché par ça, dites-vous, bah en fait, vous n'êtes pas seul, tout le monde passe par là. Deuxième point, comme je vous le disais tout à l'heure, les chamans disent qu'on a plusieurs vies dans une vie. On croit ce qu'on veut, mais voir la vie comme une succession de vies, ça peut aussi atténuer la tristesse liée à la mort et à la dédramatiser. Quand on devient adulte, c'est la mort de l'adolescence, par exemple, la fin d'une époque, et moi ça m'apaise beaucoup de me dire que le meilleur reste à venir, que quelque chose d'autre nous attend, quelque chose de différent, pas forcément meilleur, mais quelque chose de différent. Ici, par exemple, aux US, les Américains aiment beaucoup s'en remettre à la grâce de Dieu, genre God's plan. Et je crois que quelque part, ça les apaise. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est en détresse absolue, eh bien on devient tous un peu spirituels, voire religieux. Exemple, grosse turbulence dans l'avion, d'un coup, tu vas te mettre à prier. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas craquer. C'est un peu comme le processus de déni. Donc parfois, on se raccroche à quelque chose de plus grand juste pour ne pas craquer, et c'est aussi ok, hein, chacun fait comme il veut. Si vous êtes croyant, par exemple, peut-être que le mécanisme qui vous aide, c'est de se consoler en vous disant que la personne est partie rejoindre le paradis ou Dieu. Moi, je vois ça un peu moins de façon spirituelle, parce que je trouve que ça me déresponsabilise, en tout cas moi personnellement, hein, je comprends très bien ceux qui le font, et j'ai pas trop envie de me laisser contrôler, coucou les control freaks, par une main invisible, donc je me dis plutôt que chaque changement implique une mort et une renaissance en fait, et ça m'apaise beaucoup, peut-être que ça vous aidera. Troisième point qui m'a beaucoup aidé dans le décès et la gestion du deuil pour mon papa, c'est d'être reconnaissant que ce se soit passé. Quand on perd une situation, un proche, un partenaire, on est souvent perdu au niveau des émotions, et on oublie celui-ci. Quelle chance d'avoir connu cette personne, faire la liste de tout ce qu'ils nous ont apporté, de tout ce qu'ils nous ont laissé, de tout ce qu'ils ont laissé en nous. Vous savez, je vous le dis souvent, les gens qu'on rencontre viennent tous avec un cadeau, soit une boîte à chaussures, soit un vraiment très beau cadeau en papier de feuilles d'or, etc. Et quand on est triste d'avoir perdu quelqu'un, je pense qu'il faut aussi se réjouir de l'avoir connu. Comme dirait ce bon vieux Rafiki, il vit en toi, n'est-ce pas? Évidemment, c'est triste et on aurait voulu prolonger pour toujours cette relation, cette situation, mais tout se termine ou tout se termine mal. C'est comme si c'était inévitable, donc on peut décider de se remémorer les bons côtés, et c'est exactement ce que font les Mexicains avec la fête des morts, justement. Ils font la fête, ils préparent des offrandes de ce qu'aimait cette personne à manger, à boire, etc. Ça permet de ne pas oublier le proche. Ils mettent des fleurs jusqu'à la tombe ou jusqu'à l'autre pour guider les âmes vers la fête. Ils dansent, ils chantent, ils parlent de bons souvenirs, et en fait, c'est une vraie joie autour de cette date. Bon, sauf pour les enfants qui sont décédés, là, c'est un petit peu plus triste quand même. Mais vous savez ce qu'on dit? Ne sont morts que ceux dont on ne parle plus. Donc, le troisième point que je soulève aujourd'hui, c'est vraiment être reconnaissant d'avoir connu cette personne. Et là, je parle pour la mort, mais c'est pareil, vous avez vécu une relation, je sais pas, de 20 ans et finalement vous divorcez. Ok, vous êtes triste que ce soit terminé, mais soyez heureux que ça se soit passé. Quatrième point qui, moi, m'a mis une énorme gifle, c'est finalement de se rappeler, c'est un vrai rappel, que la vie est douce, et que la santé est précieuse. Et parfois, c'est aussi un warning. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça, le décès de mon père. Certaines personnes sont flippées de la mort, à ne plus endormir la nuit, mais je trouve que parfois, ça peut être utile de penser à la mort. Chaque décès nous rappelle à quel point la santé est précieuse et à quel point on a de la chance de respirer aujourd'hui. Ça marche beaucoup dans le deuil d'un être décédé, peut-être un peu moins quand on a perdu une personne qui ne veut plus nous fréquenter, mais en tout cas, ce qu'on devrait tous, chaque jour, se rappeler, c'est que la santé est ce qu'on a de plus précieux, et chaque proche malade nous le rappelle un peu plus. Moi, j'ai vraiment vu ça comme « attention ma cocotte, tu te laisses un peu trop aller niveau santé, reprends-toi bien ». Et ça a des vertus. Du coup, je me remets des coups de pied aux fesses, Et quand ça fait trop longtemps que je mange mal ou que je fais pas de sport, etc., et que je prends pas soin de ma santé, même mentale, c'est un bon moyen de faire un check. Quand on voit tous les traitements par lesquels passent les malades, par exemple, quand on se laisse aller, alors là, c'est vraiment beaucoup plus léger, mais par exemple, vous vous laissez aller dans une relation, vous avez pris 25 kilos parce que vous prenez l'autre pour acquis, bah peut-être que c'est aussi un warning si la personne s'en va. Bah, prends soin de ta santé, en fait, et reprends soin de toi. Re-aime-toi comme tu devrais t'aimer. Cinquième point, c'est ok de pleurer. Et ça, eh bien, on le dit pas assez. C'est ok de pleurer, c'est ok de se sentir misérable, d'être dévasté. Et vous savez quoi? J'ai envie de vous dire que je préfère vous savoir en larmes complètement effondrée qu'à retenir toute l'émotion pour qu'elle vienne s'ancrer tranquillou dans vos cellules et qu'un jour ça explose et que ça vous explose à la figure. J'ai tellement pleuré après le décès de mon père, je vais encore pleurer je pense, parce que les larmes sont de l'énergie contenue qui a besoin de s'évacuer. Pleurer, crier, frapper, dans un coussin hein, s'il vous plaît. C'est ok, c'est même recommandé. C'est juste se débarrasser de ces émotions désagréables et ça peut durer longtemps et tant que ça sort, laissez sortir. On a le droit d'avoir une longue période où on est au bout du rouleau. Et c'est pas grave en fait, et les gens n'ont pas besoin de comprendre cette période. Faites ce qui vous fait du bien. Sixième point, chacun fait comme il veut. Truc très important aussi qui m'a beaucoup soulagée quand j'ai réalisé qu'il n'y a pas de mode d'emploi, c'est que chacun aborde le deuil à sa façon. Perso, je vais en blanc aux enterrements par exemple. Écoutez mon podcast sur les vêtements si vous en avez besoin. Je veux pas voir les corps. J'entre pas dans les cimetières, et je pense que le prochain step, ce serait peut-être même d'aller ne pas aller aux enterrements. C'est ma façon à moi de gérer, de faire mon deuil. Certains ne comprennent pas, mais s'il y a un moment dans la vie où on peut être égoïste, eh bien c'est bien celui-ci. Ce ne sont pas les autres qui vivront toute la vie avec les traumas et les images choquantes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire de faire comme vous le voulez. Si vous ne voulez plus sortir de votre lit, c'est ok. Si vous voulez couper vos réseaux, c'est ok. Personne n'a le droit de vous dire ce qui se fait ou ce qui se fait pas, ou ce qui vous ferait aller mieux. Moi, petite, on m'a forcée à aller voir les morts, à la mise en bière, et à ce jour, je ne peux pas me souvenir des personnes que j'ai vues à la mise en bière, autrement que comme ça. Je ne veux pas voir la personne décédée parce que ça me gâche tous mes souvenirs. Et j'ai aujourd'hui, après 3 ans de souffrance extrême, j'ai énormément de mal à voir mon père autrement qu'atteint d'un cancer du cerveau. Agressif et déprimé, je n'arrive plus à me rappeler d'avant. Parfois, lors d'une rupture, les gens vont vous dire « coupe les ponts ». Mais si c'est pas le ressenti de moment, ne coupez pas les ponts. Je pense qu'il faut agir en fonction de ses envies et de sans se soucier de ce que la société souhaite pour nous. Autre point qui aide certains d'entre vous, c'est le fait de rendre la personne qui est partie fière chaque jour. Être comme il aurait voulu que tu sois, par exemple, il n'aurait pas voulu te voir malheureuse. C'est une option qui aide certains, il aurait voulu que tu sois fort ou elle n'aimerait pas te voir triste. Pour certains, c'est des drivers, donc ça peut peut-être vous aider. Après, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre de perdre des gens pour penser comme ça, mais si ça peut vous aider à remonter la pente, pourquoi pas. Autre option, sinon vous pouvez aussi vous dire « qu'est-ce que ma meilleure version de moi-même ferait dans cette situation ?» Ça peut aussi vous permettre de sortir la tête de l'eau. Et dernier point et non des moindres, je pense que c'est le fait qu'il y ait moins de souffrance aujourd'hui. Dans le cas d'une maladie par exemple, on se soulage souvent en se disant que finalement la personne est soulagée, elle est libérée de ses souffrances. Quand j'ai demandé au médecin de mon père s'il souffrait, ils m'ont dit non, mais ça pour l'instant je sais même pas si ça me rassure, on n'en sait rien de ce que ressentent les gens qui meurent sur le coup. Ce que je sais, c'est que dans le cas d'une maladie longue, c'est tellement dur que la fin est une délivrance. Mais c'est une pensée rassurante, c'est totalement imaginaire. Qu'est-ce qu'on en sait de ce que ressent un corps mort? Personne n'est là pour témoigner, donc on peut simplement croire la science. En tout cas, chacun d'entre nous passera par un deuil dans sa vie et chacun abordera les choses différemment. Ce que je peux vous dire avec un tout petit peu de recul, c'est qu'on est prêt pour tout ce qui nous arrive et qu'on a survécu à 100% des pires situations qu'on a vécues, ce qui signifie qu'on a les ressources en nous et qu'on peut tout gérer, même quand ça fait mal. Avec amour et à très vite dans un prochain épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.